Bonjour. Il y a longtemps que je ne vous ai pas parlé de l'extraordinaire dynamique des podcasts consacrés au vin. Figurez-vous que la liste continue de s'allonger avec de nouvelles propositions toutes plus intéressantes les unes que les autres. Citons les Alsaciens du podcast Le Raisin et les Papilles, animé par Michael et Adrien, qui a déjà quelques belles interviews de vignerons à leur actif, par exemple celle du jeune Arthur Ostertag, ou comment succéder à moins de 30 ans à son illustre papa. Citons également Anthocyane, la version audio de l'excellente revue du même nom, portée par Johan Castin en toute indépendance, c'est-à-dire sans publicité. Citons encore le dernier né, Chin Cheese, qui a cette merveilleuse idée de proposer un podcast parlant de vin et de fromage. Ces belles propositions viennent donc s'ajouter à la kyrielle de propositions formidables que sont Tire-Bouchon, Le Bon Grain de l'Ivresse, Les Sourires du Vin, Winemaker Show ou encore Mondo Vino. Oui, nous commençons à être nombreux à parler de vin dans vos oreilles, chacun avec sa manière, son angle, ses coups de cœur, mais tous avec l'amour de ce produit qui nous réunit tous ici. Et la bonne nouvelle est qu'il semble que vous soyez aussi de plus en plus nombreux à nous écouter, merci pour ça, en témoigne, et je profite pour l'en remercier chaleureusement, l'amicale chronique dédiée au Winecast, puisque c'est ainsi qu'on le nomme aujourd'hui, pardon pour l'anglicisme, écrite par Pasquiline Lepelletier, MOF, meilleure ouvrière de France sommellerie et meilleure sommelière de France, dans le numéro de mai de la prestigieuse revue du vin de France, une véritable consécration. Et voilà que nous, Winecasters, nous sommes inspirés des méthodes des vignerons qui s'unissent pour porter leurs appellations au plus haut, et c'est ainsi qu'est né le site winecasters.com, sur lequel vous retrouverez des liens vers tous ces différents podcasts, en attendant de pouvoir organiser bientôt la prochaine édition de la, pardonnez l'anglais, encore une fois, Meet Your Winecaster Party. On vous tiendra au courant de la date et du lieu, évidemment. Ce 66e épisode s'intitule « Hélène Savoie, le vin à vif ». Bienvenue dans la Terre à Boire. Maybe I'm a fool, but it's fun. People say you rule me with one wave of your hand, darling, it's grand. Bonjour Hélène Savoie.
Bonjour à tous.
Merci d'avoir accepté notre invitation, d'être là avec nous pour cette soirée d'enregistrement de reprise du podcast.
Merci de m'avoir invité.
C'est un plaisir. Autour de la table avec moi, Patrice Defay, bonsoir.
Bonsoir.
Marie, alias Mademoiselle Jaja, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et Florence Aragoni, notre sommelière, bonsoir.
Bonsoir.
Je suis ravi qu'on enchaîne. La précédente émission était avec Bruno Queniou. On a parlé de mystique, du vin, de philosophie. C'était passionnant. On va ouvrir là une page plus économique. On va parler de l'univers du vin. C'est ce qui nous passionne ici. Et on va parler du métier d'agent, puisque Hélène, toi, tu as créé ton agence de vin, de vignerons. Tu représentes des vignerons qui s'appellent donc VIF.
C'est ça.
Exactement. Et tu l'as créé en novembre 2019 ?
Oui, on s'est lancé en novembre, on est deux, avec mon associé Thomas. Et effectivement, on s'est lancé alors une période assez difficile. Et comme tu dis, c'est effectivement un autre angle. J'ai entendu les propos de Bruno Queniou qui étaient passionnants et d'une philosophie et d'une poésie superbe sur le vin. C'est sûr que moi, j'aborde un autre angle, une autre approche du vin qui est... J'emploie parfois ce mot des gens de l'ombre parce que quand on parle du vin, on parle beaucoup des vignerons, de la technique, des gens qui aussi représentent le vin et qui les incarnent comme les sommeliers, les cavistes, bien sûr, qui sont des grands prescripteurs. Et puis, y a certains intermédiaires dont on fait partie, nous, et comment on arrive effectivement à transmettre les l'âme que veulent faire passer les vignerons, c'est quelque chose d'à part entière. Donc, ça peut avoir une certaine poésie aussi, très différente de celle de Bruno de l'émission précédente, mais avec plaisir pour en parler.
Alors on va parler de tout ça, de la façon dont vous avez construit cette nouvelle structure VIF et les précédents emplois que tu as eu auparavant, parce que tu n'es pas toute nouvelle dans le monde du vin. Tu as notamment travaillé avec Daniel Géraud, qu'on a reçu ici. Ouais. On va parler de tout ça et puis peut-être de l'univers de ce commerce du vin, de ce rôle de médiateur, de transmetteur, cet intermédiaire dont on parle assez peu, hein, qu'on connaît dans le métier mais qui n'est pas forcément très médiatisé, des agents du vin. Florence, c'est toi qui nous a suggéré de faire cette émission avec Hélène. Merci d'abord. Qu'est-ce qui est important pour toi dans le fait de parler de ce métier d'agent de vin? En quoi il est essentiel, l'agent? On a déjà parlé avec Laurent, on a eu des échanges là-dessus.
On a eu un petit mot là-dessus aussi quand on a discuté ensemble lors du confinement. Et c'est vrai qu'on pense souvent, quand on pense au vin, on pense au vigneron. Après, on pense à l'autre bout de la chaîne, le caviste ou le sommelier. Mais on n'est pas omniscient quand on est sommelier ou quand on est caviste. On n'a pas forcément toujours le temps de courir la France ou le monde entier pour visiter tous les domaines, goûter tous les vins. Et il y a entre les deux ce trait d'union qui est l'agent en vin. Et c'est la personne qui va venir te voir et te dire... Moi, j'ai fait un domaine, j'ai découvert une personne, un vigneron. Et ce qui est super, c'est cette rencontre. La rencontre, c'est la rencontre avec un vin, mais aussi la rencontre avec le vigneron. Parce que bien souvent, les vignerons, ils ont un petit côté timide quand même, on peut le dire. Ils sont attachés à leur terre. Et attachés, c'est un peu dans tous les sens du terme. Ils ont du mal à s'en détacher pour venir voir les restaurants, les sommeliers, les cavistes. Et donc, c'est bien d'avoir cette personne qui fait le trait d'union, qui fait le lien et qui vient te faire découvrir une personne, une personnalité, un vin et te raconter son histoire. Et c'est vrai qu'il y a des agents avec lesquels on n'accroche pas trop parce que est-ce qu'on n'accroche pas trop avec ce qu'ils ont dans leur catalogue ou est-ce qu'on n'accroche pas trop avec le caractère de l'agent, mais bien souvent on s'aperçoit que dans le caractère de l'agent, il y a un petit peu aussi le style des vignerons qui va représenter. Et souvent, quand on s'entend bien avec un agent, c'est parce qu'il nous a présenté des vins qu'on aime bien, des vins qui vibrent, des vins qui nous parlent. Et l'agent, c'est la personne qui fait parler le vin, qui fait parler le vigneron quand le vigneron n'est pas là et qui nous fait découvrir des choses et des pépites. Et donc, voilà.
Hélène, tu te reconnais dans ce mini-portrait que vient d'ébaucher Florence ?
Complètement, exactement. Bon, déjà, merci, moi je connais Florence d'une vie précédente avant VIF, que j'aurais peut-être l'occasion
on va commencer par là.
Mais c'est tout à fait ça, et c'est toute la subtilité et la difficulté dans le même temps de ne pas éprendre... De toute façon, on n'est pas vigneron, donc on ne prend pas cette place. Et souvent, on s'est aussi rendu compte que les vignerons, et tu l'as dit très justement, Florence, c'est que parler de leur vin, ils savent le faire, mais ils savent le faire parfois avec ce vocabulaire très technique. Ils partent parfois dans des choses aussi très longues. Et nous, on sait que vous, en tant que caviste, en tant que restaurateur, vous avez parfois un temps qui est très limité, très court. Vous courez partout, vous avez beaucoup de choses à faire. Et en fait, il faut arriver à être et concis et précis et vous faire déguster les vins de manière... que vous ayez quand même le temps de les découvrir. Donc c'est un métier en fait avec pas mal de contraintes, mais en même temps c'est excitant et c'est passionnant parce que la variété des clients que l'on peut rencontrer nous permet d'essayer de trouver les clients pour les bons vins, parce que quand on représente un vigneron, il y a aussi ce choix un peu cornélien de est-ce qu'on représente toute la gamme du vigneron ou est-ce qu'on représente un petit peu, entre guillemets, les vins qui fonctionnent, je mets des guillemets. Et ça, c'est subtil et c'est difficile aussi. Et nous, par exemple, avec Thomas, on a choisi de représenter la gamme entière de chaque vigneron, parce que s'il fait des vins avec cette variété et cette richesse, c'est qu'il y a une raison. Et c'est à nous, et on trouve que c'est vraiment notre mission, d'aller, si le vin A fonctionne avec le restaurateur B, c'est très bien, et c'est à nous vraiment d'essayer de trouver ce consensus. Donc c'est très difficile, mais je suis entièrement d'accord avec le fait que le vin, c'est déjà un métier d'humain, et donc représenter des vignerons, c'est aussi avec des vignerons avec lesquels on s'entend bien, avec lesquels on aime, on accroche avec la philosophie, et de toute façon, ça change tout. De pouvoir parler des vins et des gens qui nous animent, qui nous portent, qu'on admire aussi. Donc je suis entièrement d'accord
avec Florence.
On va essayer de décortiquer un petit peu ce métier, la façon dont vous pouvez référencer des vignerons, les présenter, les défendre. Ton parcours en quelques mots, je l'ai dit, les vins du monde avec Daniel Géraud, oui. C'était sa spécialité, c'est toujours sa spécialité. Oui. Donc tu as commencé dans le monde du vin très jeune en fait.
En fait, moi je suis fille de vignerons, moi je suis issue d'une famille de viticulteurs, un vigneron champenois, et des deux côtés, tout le monde fait du champagne chez nous.
Des deux côtés, papa, maman, c'est
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça, c'est deux familles de vignerons, hein, voilà, c'est pas...
Dans quel coin?
Donc en Champagne, on est en pleine vallée de la Marne et on gravite, alors on est une toute petite commune, mais on gravite autour de communes peut-être un petit peu plus connues comme Cumières, toutes ces communes-là, Châtillon-sur-Marne, voilà. Mais c'est vraiment des petits villages.
Quel domaine alors fait un peu de pub pour papa, maman?
Ah bah, c'est, oui, alors on est un domaine très familial, donc moi, voilà, je m'appelle Hélène Savoie, donc mon père Gérard Savoie avait sa marque, mon grand-père Robert Savoie avait sa marque, voilà, donc c'est vrai. Vraiment, les générations se succèdent.
Donc les champagnes de Savoie, c'est pas.
Voilà, c'est ça.
C'est pas incongru, c'est pas des champagnes savoyards, c'est la famille.
Non, mais mon nom de famille est avec un Y et il est fort probable qu'on vienne potentiellement là-bas. Et nous on est deux filles chez nous, et donc j'ai une petite sœur qui elle a repris le domaine, qui a fait le lycée viticole d'Avize et qui elle reprend nos hectares familiaux. Donc elle est en train de monter sa marque. Et d'avancer dans ce monde du vin où les conflits de génération sont aussi pas mal présents. Donc c'est intéressant de venir vraiment d'être issu de ce milieu-là parce qu'on sait ce que sont les vignes. Hein. Moi, les vacances, c'était aussi travailler à la vigne, aider aux tâches, et c'est très important. Et on reviendra peut-être là-dessus, mais le métier d'agent a énormément évolué. Et avant, on pouvait potentiellement vendre du vin sans avoir non plus des connaissances techniques. Et aujourd'hui, par contre, quand tu es agent, si tu ne sais pas comment vraiment on fait un vin de manière profonde et technique, c'est compliqué. Mais tant mieux, ça tire pour moi le débat vers le haut, donc c'est important. Donc je viens de là et je fais aussi partie de cette génération où on m'a aussi appris que le travail dans la vigne, c'est dur, qu'il ne faut pas fondamentalement faire ça et qu'il faut faire des études. Donc si t'as pas de Master 2, ce fameux Graal qui est censé t'amener à tout, peut-être que quelque part tu passes à côté de quelque chose. Donc c'est bête à dire, mais les locaux aussi boivent local, et nous, enfin moi sincèrement, à part le champagne vraiment, on n'avait pas forcément une grande ouverture sur les vins. On buvait un peu d'Alsace et un peu de Bourgogne parce que c'était proche géographiquement, mais chez nous il n'y avait pas de Roussillon, il y avait encore moins de Corse, parce que voilà, on boit un petit vin corse là. Il n'y avait pas tout ça. Donc moi, l'ouverture du vin, elle s'est faite après, et elle s'est faite en dehors de la Champagne. Donc je suis partie après le bac, effectivement, faire des études à la capitale. Donc je suis arrivée à Paris.
Reims.
Et j'ai fait quasiment. Écoute, Reims, c'est la banlieue de Paris maintenant.
Reims, Paris, ça va, c'est pas loin.
Ouais. Et donc je suis arrivée à 18 ans et j'ai fait une école de commerce qui m'a beaucoup appris et qui m'a aussi ouverte à autre chose que le monde du vin, parce que toute ma famille fait ça aussi. Et voilà, j'ai travaillé dans d'autres choses. Et puis j'ai découvert le monde du vin grâce à des mentors, on peut dire des tuteurs, oui, des mentors qui se sont rencontrés sur les bancs du Master of Wine. Pour ne pas les citer, Sylvain Removille et Christophe Macra, qui lui est Master of Wine, donc il fait partie de très peu de gens qui ont ce diplôme, qui n'est pas très connu d'ailleurs en France. Si, qui est connu, mais qui, pour le, entre guillemets, les gens qui ne sont pas forcément du monde du vin, ce n'est pas un diplôme qui parle aux gens. Bref, et lui, tous les deux ont fondé une cave à la Défense qui s'appelle Apogée, dans laquelle j'ai travaillé quelques mois et qui m'ont ouverte vraiment sur les vins du monde entier. On dégustait tous les jours avec une approche assez décortiquée, justement pour faire le parallèle un petit peu avec l'émission précédente de Bruno, assez décortiquée sur comment on analyse un vin, les tanins, les arômes, les acides. Et j'ai découvert tout ce vocabulaire du vin et j'ai plongé dans cet univers en me disant il y a vraiment une variété incroyable. Et moi, très vite, j'ai fait ce deuil de savoir que je ne pourrais jamais goûter tous les vins du monde entier, puisque c'est en perpétuelle évolution, mais qu'il fallait comprendre ce qu'on aimait. Et étant de l'autre côté du comptoir, donc étant aide caviste à l'époque, il y avait des gens qui arrivaient avec des énormes a priori sur le vin, et je m'étais mis en mission de pouvoir leur faire goûter des choses à l'aveugle, parce que et là où c'était intéressant, en 2011-2012, chez Apogée, tous les vins étaient... on pouvait les déguster à l'aveugle. Tous les vins de la cave étaient possibles. Il était possible de les déguster à l'aveugle. Et donc, je me suis prise à ce jeu. Des gens qui arrivaient en disant « Ah, mais moi, je ne bois que du Bordeaux. » Très bien. Eh ben, donc, vous aimez plutôt Cabernet, plutôt Merlot ? Je ne sais pas, mais je ne bois que du Bordeaux. Très bien. Et donc, moi, j'avais...
client sympa, ça, déjà.
Client sympa. Ouais. Donc, moi, je prenais des Cabernets du sud de la France.
Il ne fallait pas se mettre à la défense en même temps.
Ouais, bah certes, évidemment.
Les a priori.
Et je leur faisais goûter des cabernets ou des merlots d'autres régions. Mais voilà, et en fait, j'arrivais à leur faire évoluer leur goût, leur style. Et pour moi, c'est ça aussi le métier de caviste, c'est cette prescription, etc. Et je suis tombée dans le vin comme ça. Et puis un poste était en annonce. Enfin, il y avait un poste en annonce chez justement cette grande maison qui est Vin du Monde. Et moi, à l'époque, les vins étrangers, j'en connaissais un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Et Vin du Monde est quand même une maison qui était fondée en 95, donc était des pionniers. Et le but de Vin du Monde, c'était nous, on va chercher des pépites du monde entier et on les met sur les tables des restaurants français.
On peut dire que c'est l'agence la plus connue, établie dans le registre des vins étrangers en France.
C'était l'une, en tout cas, des premières à mon sens. Alors après, moi, je suis relativement jeune. C'était fondé en 95. Moi, je suis arrivée en 2013 dans cette maison, donc c'est sûr qu'il y a eu du chemin qui a été fait. Mais en tout cas, ouais, c'était une maison qui était vraiment reconnu pour la qualité de son catalogue. Voilà, donc moi j'ai commencé par vendre du vin en tant que commercial, donc j'étais l'autre côté du comptoir, j'étais plus caviste, avec des vins étrangers qui étaient assez plutôt haut de gamme, ce qui était très bien, et qui étaient quand même assez compliqués à vendre, parce qu'en France, s'il y a bien un pays, avec potentiellement bien sûr l'Italie et d'autres grands pays producteurs, s'il y a bien un pays où l'offre
déjà pléthorique,
c'est la France. Et à Paris, le terrain de jeu était énorme et je me suis dit, oh là. Et je suis arrivée, effectivement, donc il y avait Madame Géraud, grande dame du vin, qui m'a beaucoup appris à mes débuts et qui avait ce bagout et cette aura pour parler des vins étrangers comme peu de gens, qui m'a fait tout de suite aimer des très grands madères qui, voilà, quand t'as 25 ans, qui boit des madères avec une grande envie, une grande... Ah, faut absolument que tu goûtes des Cerciales de 92. Personne ne boit ça. Moi, mes amis qui donc étaient issus d'écoles de commerce, qui n'étaient pas forcément des amateurs de vin du tout, je leur amenais des trucs, c'était lunaire pour eux, ça n'existait pas et ils ne savaient même pas quoi en faire. Et donc j'ai commencé dans le monde du vin avec cette approche où c'était quand même difficile. Mais la jolie histoire, c'est que comme tu l'as dit précédemment, Florence, dans l'émission précédente, les vins étrangers, ce n'est pas facile d'y avoir accès en dégustation. Et j'ai eu la chance, du coup, d'avoir des portes qui s'ouvraient relativement vite, parce que quand je proposais des grands Moselle allemands, des grands vins d'Autriche, Hongrie, des grands, plein de choses très intéressantes qu'on n'a pas forcément l'occasion de goûter, les portes se sont relativement vite ouvertes.
Les cavistes sont curieux face à ce genre de proposition.
Bien sûr. Et puis les cavistes, quand il est 16h et que les clients du soir ne sont pas encore là, mais que les clients du midi ne sont pas là non plus, ils ont le temps, mais dans le sens amélioratif du terme, ils ont le temps de s'éduquer à ces...
Bonjour, je suis arrivé pour goûter.
Voilà.
Je viens pour le goûter. Voilà.
Exactement. Et moi, j'adorais ça. Et d'ailleurs, c'était un peu mon travers. Mon ex-patron, s'il m'écoute, pourra peut-être le reconnaître. Mais parfois, j'adorais tellement le produit que je repartais en disant « Bon ben voilà, à la prochaine !» Je ne faisais pas ce qu'on appelle le closing, entre guillemets. Bon, voilà, pardon pour les termes franco-anglais, mais c'était ça. Et je repartais, j'étais toute contente. C'est vrai qu'il goûte bien ce vin de Hongrie. Mais voilà, c'était un jeu permanent, dans le bon sens du terme, au quotidien, d'essayer d'aller faire goûter ces nouveaux terroirs d'essayer d'amener de la nouveauté. Parce qu'on s'est aussi rendu compte que dans plein de cavistes, chez plein de cavistes, le rayon des vins étrangers, il est soit caché, soit parfois inexistant. Et donc j'avais cette mission un petit peu d'essayer de ouvrir un peu les parts de marché sur les vins étrangers. C'était une excellente école, mais aujourd'hui, j'ai resté plus de 6 ans chez Vins du Monde. C'était une excellente école. On est beaucoup de confrères. Il y a eu beaucoup d'autres sociétés d'importation et de distribution de vins. Il y a eu un bel engouement sur les vins du monde entier au début des années 2000. Tout le monde voulait goûter les Sauvignon Blanc de Nouvelle-Zélande, absolument incroyable, de Marlborough. Tout le monde voulait aussi les grands Malbec argentins qui faisaient du parcellaire, où il y avait vraiment des différences dans les Malbec. Il y avait tout cet engouement qui a amené à aussi démocratiser les vins étrangers. Et tant mieux, les terroirs, s'il y a bien quelque chose qui n'est pas délocalisable, autant les techniques dans le vin sont délocalisables, autant les terroirs ne le sont pas. Et c'est ça que je trouve beau dans le vin aussi, c'est que de partout dans le monde, on peut échanger, parce que de toute façon, on n'est pas vraiment concurrent. Voilà.
Et donc, du coup, tu as amené un vin semi-étranger.
Remarque, s'ils t'entendent, oui, ils vont dire tout à fait. Oui, j'ai amené un vin semi-étranger.
J'ai pris la proposition qui satisfait tout le monde.
Oui, exactement. Là j'ai amené, alors pour le coup, c'est un domaine que j'ai découvert pendant que j'étais chez Vins du Monde, parce que je suis allée visiter ce domaine en Corse que je conseille beaucoup. La Corse, ouais, qui est un terroir un peu à mi-chemin entre ce qu'on connaît et ce qu'on connaît pas.
Entre la France et l'Italie, un petit peu aussi.
Oui, exactement. Donc là, on goûte effectivement un Vermentino. Alors moi, je dis le U, mais effectivement, on ne le dit pas. du domaine Clos Marfisi, de Mathieu et Julie Marfisi, qui sont frères et sœurs et qui ont repris derrière leurs parents.
Patrimoniaux,
très belle appellation de patrimoniaux du nord de la Corse, et ils ont des terroirs, des grands, des superbes.
C'est terrasses granitiques.
Ouais, et argilo-calcaires aussi.
Les arènes, pardon.
Bien sûr. Bah,
voilà. Hommage, Antoine.
Hommage, bien sûr, que vous avez pu.
Qu'on a reçu, bien
ouais,
sûr.
Ouais, bien sûr. Et très grand terroir. Moi, je suis tombée amoureuse de ce domaine. Ils ont un parcours un peu atypique. Julie, la sœur de Mathieu, on lui a dit aussi un petit peu fait des études. Donc elle est partie à Nice faire un petit peu des études, et puis elle a dit non, mais moi je vais rentrer et je vais faire du vin. Donc elle est rentrée et elle a fait du vin. Et Mathieu, lui, a fait une école, était ingénieur. Il a travaillé donc à la défense aussi dans l'audit et la finance. Et puis il est revenu, et c'est intéressant parce qu'ils sont revenus aussi avec ce regard extérieur du monde du vin, complètement.
Où la Corse est toujours mise avec la Provence, qui est absolument scandaleux.
C'est vrai.
Encore aujourd'hui, c'est vrai que c'est dingue.
C'est absolument scandaleux.
Oui, tout à fait.
C'est scandaleux, mais il y a des cépages en commun.
Tout à fait. Et le Vermentino, le Roll, comme on veut. Mais il y en a d'autres, effectivement. Donc, ils sont... eux, ils ont cette philosophie de faire des vins purs, très... très représentatif de leur terroir. Mathieu est rapidement devenu en 2016, si je ne me trompe pas, mais je ne crois pas, président de l'appellation de patrimoniaux. Et on en a parlé un petit peu, mais c'est une appellation qui milite aussi pour ce que la plupart des vignerons qui inscrivent patrimoniaux sur leur étiquette ont des pratiques propres et voire...
Ils l'ont même inscrit, de mémoire, c'est pas la première appellation qui a inscrit dans son cahier des charges qu'on doit être bio pour être patrimoine.
Tout à fait. Donc c'est quand même une révolution à dire. Et donc ça, c'est un domaine que je distribue aujourd'hui avec donc l'agence VIF. Donc après Vins du Monde, effectivement, il y a eu plusieurs choses qui se sont imbriquées dans cette décision. Je suis passée de vendre des vins étrangers haut de gamme à des superbes restaurants très variés. On avait pas mal de restaurants haut de gamme, etc. Donc c'était très intéressant. Se lever le matin pour aider. Alors je pourrais employer les mots promouvoir, tout ce qu'on veut, les mots du commerce. Mais en fait, le premier but, c'est aider, parce que je viens de ce monde de petits producteurs que si tu te lèves pas le matin pour aller faire du commerce, en fait, c'est compliqué de se faire sa place parce que l'offre de vin en France est énorme. Donc nous, le but avec Thomas, donc, qui est mon associé, que j'ai connu chez Vins du Monde quand il a été recruté, c'était le deuxième commercial, donc on est partis tous les deux en même temps de la vente, pour monter notre projet.
Et Daniel a mis un contrat sur, sur les deux dires.
pour montrer... Pour
risquer le tribunal militaire, là.
Il y a des Corses qui sont sur le coup, d'ailleurs.
Apparemment. Ouais, le but, c'est juste, en fait, on avait une très belle synergie professionnelle tous les deux, et on s'est dit, bah, effectivement, il y a aussi... Moi, j'étais vraiment habitée, et notamment bah, avec Bruno Quenioux, j'y reviens, mais dans l'émission précédente, vous parliez aussi de beaucoup de... Voilà, de ce qu'on ressent, de ce que le corps ressent, de ce que... des énergies, etc. Et j'avais beaucoup d'émotions dans beaucoup de vins du monde entier. Après, je trouvais que j'étais plus en phase avec ce que le catalogue de mon ancienne entreprise, qui donc n'était pas la mienne, donc c'est pas moi qui faisais la sélection, bien sûr, de ces vins, j'étais plus en phase avec ce que ça proposait et j'avais besoin de revenir à des choses plus proches de moi et d'aider des petites exploitations familiales. Donc aujourd'hui, moi je suis passée d'un catalogue chez Vins du Monde où il y avait 700 à 900 cuvées avec 140 domaines. C'était un catalogue incroyable mais qui était très difficile à gérer et j'en suis venue à un point où j'arrivais plus à trouver de la satisfaction. Les vignerons se disaient bah oui mais il y a beaucoup de vins en catalogue, comment les commerciaux arrivent à nous représenter et à commercialiser correctement les vins de tout ce catalogue. Donc là aujourd'hui on est passé d'un catalogue de 140 domaines, un catalogue où nous on en a 11 aujourd'hui.
C'est déjà pas mal, bravo.
C'est déjà pas mal et l'idée c'est un vigneron une région pour pas multiplier non plus pour l'instant les choses et d'essayer d'aider des petites exploitations familiales qui n'ont pas les moyens de venir à Paris pour développer correctement le commerce, qui ne connaissent pas les sommeliers, qui ne connaissent pas les cavistes, qui n'ont pas le réseau, qui n'ont pas le temps, qui sont... Voilà, c'est leur métier. C'est vrai que nous, on veut que ce soit faire du vin et se consacrer à faire du vin.
C'est quoi la journée type d'un agent, enfin, ou c'est quoi la pourcentage
Ça commence à 16h, je pense. Commencer à goûter.
Tu commences à goûter.
C'est très... Alors ça, c'est vraiment... Les agents, c'est un métier de personnalité, donc c'est vraiment aussi en fonctionnement de chacun. Mais en gros...
C'est quoi ta journée ?
Ce qui est très compliqué, c'est que c'est la fenêtre de tir pour aller rencontrer nos clients. Elle n'est quand même pas facile. C'est-à-dire que les restaurants, en gros, avant 10h, c'est vraiment très général. Hein. Les hôtels, c'est un peu plus tôt. C'est un peu plus... Bon, bref. Avant 10h, c'est compliqué de faire des dégustations. Ça peut, hein. Il y en a plein, mais c'est... C'est compliqué parce que souvent...
C'est plutôt au bar à 7h30, 8h.
Ouais. Chacun sa journée. Hein.
T'as déjà le palais démoli par un espresso bien torréfié.
Aussi, ouais, aussi. Mais bon, chacun, voilà. Et après, midi moins 20, tu vois, ils sont en brief, les restaurants, les équipes mangent avant le service. Je parle de un peu la vie d'avant, du coup, là. Là, c'est compliqué. Pendant midi, bien entendu, c'est compliqué. Donc après, souvent, ils finissent les services 14h30, 15h. Sur les étoilés, ça part jusqu'à 16h. Donc pendant ce temps-là, on va voir des cavistes, plutôt, où c'est un peu des journées creuses. Et après, il y a cette coupure sacrée qu'ont les restaurants, où... clairement entre 16h et 18h, ils ont des choses à faire, ils ont la cave à ranger, il faut qu'ils se reposent un petit peu parce que c'est des grosses journées. Donc après nous on redémarre avec les restaurants sur un 17h30 jusqu'au brief du soir. Et entre-temps, tu fais tes devis, tu réponds, tu passes les commandes, tu réponds les allocations, qu'est-ce qu'on a comme stock, et puis tu fais tout le reste. Alors quand tu as une structure où chacun a une casquette, il y a quelqu'un à la compta, il y a quelqu'un au sourcing, il y a quelqu'un au marketing, il y a quelqu'un à la logistique, ça va. Toi, t'es commercial, donc tu y vas. Sauf que là, on se rend compte qu'avant, quand tout le monde avait une casquette, nous, il faut qu'on mette toutes les casquettes en même temps. Donc oui, ça fait des très grosses journées.
Le temps passé chez les vignerons et à faire le catalogue, c'est l'été, c'est sur les salons, c'est... Non, vous allez...
Alors,
sur
les
place.
Salons, il y a beaucoup de gens qui sont très fatigués des salons. Parce que c'est un peu la surenchère, il y a beaucoup de choses à déguster, il y a de plus en plus de vignerons qui sont reconnus, donc il y a beaucoup de choses à aller goûter, sauf que sur les salons, tu rencontres toujours des gens que tu connais, « Ah, salut, machin, tu vas... » Donc tu parles une heure, donc en fait, tu dégustes pas assez. Donc les salons, c'est compliqué, mais moi, je trouve que les salons, c'est génial, les vignerons viennent à toi, ils font cet effort, ils font ce déplacement. Donc nous, on a trouvé quelques vignerons sur des salons. Et nous, notre approche, ça a été, quand on s'est lancé, on est allé voir des clients qu'on aimait bien, des amis sommeliers, des amis cavistes. On a dit, on aime tes goûts, on a envie de travailler avec des gens comme toi parce que t'es... On goûte de la même façon. On aime les mêmes typologies de vins, on aime la vivacité. Donc nous, on s'appelle Vif parce que c'est aussi la typologie des vins qu'on aime, sans vouloir décortiquer les vins. Mais on aime les vins avec des grandes acidités, des grandes minéralités.
Ça, c'est la ligne directrice, comme une ligne éditoriale d'une maison d'édition un petit peu.
Alors, c'est ce qu'on tend à faire, sauf qu'en même temps, c'est contradictoire parce que comme on représente toute la gamme des domaines, parfois, il y a des vins qui sont carrément plus costaud que d'autres. Parfois, il y a des vignons, en fait, ils font des blancs géniaux et ils font des rouges un petit peu plus lourds et, ou alors ils font des rouges top, mais les blancs, ils sont un peu costauds. Donc, c'est une subtilité, mais on aime en tout cas les notions de... On aime sentir les sols et on aime les acidités et la vibration. Et tout ça, on voulait le mettre en un seul mot, court et efficace. Et c'est sorti tout seul, vif, et on a dit, bah, bien sûr, en fait. Donc, bon, voilà, c'est parti comme ça. Bon, très bien. Et ouais, le sourcing, c'est quelque chose de fou parce qu'il y a tellement d'offres.
Donc, le sourcing, c'est le fait de référencer les vignerons.
Oui, pardon.
En français, dans le texte.
Oui,
le franco-anglais qu'on adore.
Déjà l'anglicisme, on dit. L'anglicisme.
J'ai déjà abusé des anglicismes, ça n'empêche pas effectivement de les expliquer. J'ai une question à ce sujet. Est-ce que quand tu rencontres un vigneron, en général, il est déjà représenté dans une autre agence et donc tu le débauches
ça,
en quelque sorte, ou c'est des gens qui aujourd'hui n'ont pas forcément une agence attitrée. Il y a des vignerons qui n'ont pas d'agent.
Bien sûr, très bonne question, et c'est tout notre angle. Nous, on veut travailler avec des gens qui n'ont pas de force commerciale à Paris. On goûte les vins, on trouve ça super. On tout de suite avec Thomas, donc je me permets de parler en son nom, il dira rien parce qu'on pense la même chose, mais tout de suite,
s'il dit quelque chose, on s'en fout,
voilà, parce qu'il est pas là. Mais en gros, on goûte un vin, on se dit, mais attends, ça, et en fait on sait chez quel client ça peut fonctionner. Et là on se dit, mais bien sûr, ça c'est les goûts de Pierre, c'est les goûts de Paul, c'est les goûts de Jacques, il faut qu'on lui fasse goûter ça, il faut qu'il comprenne, il faut là. Et notre but, c'est effectivement de représenter des vignerons qui sont pas représentés par d'autres agents, pour une simple raison éthique, c'est que c'est une question de confiance, et que si les vignerons font confiance à un agent pour les aider, c'est pas à nous d'aller débaucher d'autres. Enfin, il y a assez de vins, pour moi, il y a assez d'offres et il y a assez de vins. Et c'était notre grande crainte quand on a commencé, oh là là, comment on va trouver des vitis ? Comment on va trouver des vignerons ? Mais des vignerons, il y en a plein. Donc c'est à nous de définir par contre notre ADN, ce qu'on veut faire. Il y a des vignerons qui sont hyper sympas, qu'on adore, qui sont géniaux, c'est des crèmes, on a trop envie de travailler avec eux.
Mais
Patrice se lâche.
Mais tu vois, mais bah, non, mais parce que j'ai ce respect pour les gens qui font, tu vois, des trucs. Mais
leur vin ne te parle pas.
Mais voilà, mais ou alors c'est pas prêt, ou alors on n'a pas du tout d'émotion, ou alors comme tu disais très justement tout à l'heure, Florence, parfois on n'accroche pas avec les vins du tout, et c'est vrai que c'est délicat parce que bah ils ont produit ce vin, donc bah qu'est-ce qu'on fait, voilà. Et puis parfois il y a des vignerons, on adore les vins, on dit voilà, la claque, mais ils sont hyper difficiles, ils sont pas accessibles, ils ont pas le temps, quand on leur demande la moindre fiche technique, oh là là, nous on fait pas ça, hein, nous le vin on l'explique pas, nan. Bon, d'accord. Donc c'est vrai que c'est des subtilités, voilà, il faut être en confiance. Et puis un jour, comme dans la vie de tous les jours, tu as la rencontre et là, il se passe quelque chose et tu sens que ça va fonctionner. Et tu y vas, tu te poses limite pas de questions, et c'est une légèreté pour travailler avec les vins, pour travailler avec les vignerons.
Autour de la table, ce vin, puisqu'il faut quand même en dire un mot, ce Patrimonio, oui. on est tous assez fans de Vermentino, habitués.
Toi et moi, en tout cas.
Oui, toi. Je sais que Florence, elle aime ça aussi.
J'aime ça. En général, je trouve que les Patrimonio, surtout les blancs, sont un peu puissants quand même.
Ouais.
Et celui-ci, il a de la fraîcheur, et c'est ça qui est agréable, qui fait qu'il est facile... Bah, tu fais un verre et tu vas très vite au deuxième verre. Et ça, c'est toujours bon signe.
Il est assez, il est peu alcoolique. Il a 12 degrés 2, ce qui est assez peu élevé en alcool.
Ouais.
Et puis, il est assez jeune. Donc, il a quand même déjà pas mal de matière. Et il peut encore évoluer. C'est un 2019. Hein.
Ouais.
Voilà. Bon, après, moi, j'aime bien le côté très... c'est assez complet, quoi. Je trouve qu'il y a beaucoup d'équilibre dans le Vermentino, à la fois sur le... Il y a de la matière, mais il y a de l'acidité, c'est floral, il y a du fruit.
Ouais,
pour moi, c'est vraiment un blanc d'équilibre assez complet, même si on sent qu'il vient quand même plutôt du sud. Ouais. On a quand même cette salinité qui est propre aux arènes granitiques de patrimoine et de cette région-là.
Ça va être très agréable.
C'est, je vais essayer de ne pas répéter ce que vous avez déjà dit, parce que c'est très floral en effet. Mais c'est libre, c'est juteux. Et ce qui me plaît, c'est que je sens que c'est bien mûr.
Ouais.
Ce qui est une question, parce qu'à 12 degrés, pour un vin de Corse, tu peux te demander si, mais on va dire que c'est les quartiers.
Après, c'est 2019, donc il y avait quand même. Ouais. C'était pas une année trop difficile. Même s'il y a eu des allées, il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de pluie. C'est bien quand tu regardes la météo tout le temps. Alors la Corse sera balayée par des vents et des pluies. Donc c'était une année qui a eu des aléas. Mais qui s'en est bien sorti. Après, l'acidité et peut-être la structure du vin fait qu'il peut très bien être ouvert maintenant, mais c'est qu'il a un potentiel quand même de garde qui peut fonctionner.
Il y a une sacrée colonne vertébrale d'acidité, comme tu dis, qui lui permettrait de traverser dans le temps. Et c'est mûr, et pourtant c'est salivant. Ouais. Et donc c'est ça qu'on aime. Et je reprends, tiens, moi aussi je vais citer notre ami Bruno maintenant. Mais oui, c'est un vin qui est scintillant. Qui a quelque chose de vibratoire et de très vivant, de très libre.
T'as aimé ce terme de scintillant, Marie ?
Ça a résonné, oui, parce que c'est des termes qui nous manquent souvent en atelier et ou qui manquent aux étudiants, et ils essaient de te dire je ressens de l'émotion, et finalement on peut peut-être être un petit peu plus précis en allant chercher vers un langage plus du corps que de l'esprit.
Après, on est au sud, mais on est juste à 3 km de la mer. Saint-Florent, c'est juste derrière.
Ah oui, ils ont vraiment.
Farinol est juste derrière, et puis on est sur des terroirs qui sont des anciens fonds marins.
Tout à fait.
Ils ont normalement des petits coquillages, exactement. Donc
il y a un peu d'altitude en plus. Il y a de la fraîcheur.
Alors là, il n'y a pas beaucoup d'altitude. Ouais, on est sur thermique. Un coteau, puisqu'on est vraiment en bord de mer, quand même, à Patrimoine. Ouais. On est redescendu là, sur le coteau qui fait face.
Oui.
Du côté du Gros Teddy Soleil, mais on est sur un coteau, effectivement, donc on est un peu à l'abri. Je crois qu'il y a un peu d'eau au soleil, me semble-t-il.
Un petit peu, mais les vignes, de toute façon, regardent la mer à un moment donné.
On est proche de la mer, donc il y a la fraîcheur maritime, et c'est ce qui définit aussi la Corse, particulièrement dans ce coin-là.
Ouais, et ils font vraiment partie de cette génération qui veut aussi. Tu vois, Mathieu, il me disait, moi, mes parents, ils faisaient un blanc, un rouge, un rosé. Terminé. Et eux, ils ont une gamme de vins qui est très évolutive. Donc, il y a du Gros Teddy Soleil chez eux. Il y a d'autres. Il y a Ravagnola blanc, donc en blanc. Il y a Ravagnola en rouge. Et ils veulent vraiment montrer par les vins cette mosaïque de terroir. Et donc, ils font beaucoup. Ils travaillent pas mal avec des amphores. Donc là, c'est de la cuve. Hein, il y a pas. Voilà, c'est de la cuve. Ils travaillent beaucoup avec des amphores. Ils aiment faire des expériences. Et nous, avec Vif, c'est des domaines comme ça qu'on recherche. Donc, on a pas mal. C'est marrant. On a des appellations. On n'est pas du tout Ayatollah et de la certification bio et des appellations. On aime les gens qui font des expériences, qui aiment représenter quand même une appellation et son cahier des charges, mais on a des gens qui font, on a un domaine par exemple qui est en comté tolosan, donc l'IGP qui est, lui ils sont près de Toulouse, hein, voilà, comté tolosan. Simon, il fait un assemblage de pinot noir Syrah, voilà, et en foudre. C'est juteux, il y a plein de fraîcheur, c'est rigolo. Il y a les épices de la Syrah, mais en même temps, il y a le frais du pinot noir qui n'est pas trop confituré. On a goûté ça complètement par hasard au Salon du Sud-Ouest qui était à la Bellevilloise au mois de septembre. On avait bu X Malbec, parce que forcément Sud-Ouest, et les gencives étaient saturées.
On fait avait trois bouts de bois dans la bouche.
Quasiment. Et on fait une pause. On se dit, bon, on s'en va là parce qu'on a goûté plein de choses, c'est trop bien. Et on s'est arrêté devant le stand de Simon. Enfin, le stand, pardon, la table, oui, bon. Et donc, on regarde les étiquettes et on voit Pinot Noir Syrah. Et on se dit, bah, qu'est-ce que c'est que ça?
La cuvée des frères ennemis, un peu, quand même.
Un peu, mais complètement.
Quelle drôle d'idée.
Bah ouais, et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, on dit, bon, on va goûter, écoute, on est là, hein, donc on goûte. Et là, émotion, vibration, acidité, fraîcheur, équilibre. Et on parle avec Simon et on le trouve super sympa. Et on se dit, pourquoi tu fais ça? Il me dit, oui, mais moi, mes cépages, on travaille 15 cépages. Donc, à un moment, on fait en bio, on a 200 hectares de céréales. On se dit, waouh, le boulot qu'ils font, mais c'est incroyable. Et on se dit, ok, tout de suite, ça a collé, je ne peux pas expliquer. Donc, maintenant, on a ce vin en catalogue qui fonctionne et c'est rigolo. Et on va, au fil des rencontres, comme ça, à comprendre les vignerons, ce qu'ils font. Et les expériences, ça nous parle, mais ça reste quelque chose, parfois, de compliqué pour les clients finaux. Ou si derrière, tu es en IGP ou tu es en vin de France et que c'est le même prix qu'un prix d'appellation. Et là, on parle purement commerce pur et perception des vins. Si derrière, il n'y a pas un caviste pour expliquer le travail qui est fait ou un sommelier pour expliquer pourquoi c'est un vin de France, parce que ça sort des cahiers des charges, parce qu'il y a des expériences, bah, souvent, voilà, pour le même prix, bah, le client final en cave, bah, il va prendre l'appellation. Donc c'est un métier de tous les jours, que quand tu n'as pas de certif en plus et que tu n'es pas certifié bio et qu'un client veut du bio, bah, faut expliquer que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de certification que ce n'est pas propre et que ce n'est pas très bien fait.
Je change un peu de sujet, mais est-ce que tout le vin en vente directe par le digital, est-ce que c'est des tweets, des gens comme ça, ventre à la propriété, bon bref, il y en a des cents et des mille. C'est plutôt une bénédiction pour vous ou c'est plutôt une malédiction?
En fait, c'est les deux. Voilà.
D'où
c'est
ma question.
La fameuse, ça dépend. c'est les deux parce que c'est
en même temps. C'est un peu passé de mode, mais il n'y a pas longtemps, on disait en même temps.
Oui, en même temps, c'est vrai. ça, alors, positivement, ça nous aide parce que ce sont des acteurs qui tendent à suivre aussi les tendances de consommation. Et d'ailleurs, bon, là, on l'a vu aussi avec ces trois derniers mois, très difficile pour les marchés du vin. Il y a vraiment des appellations et des ventes qui se sont effondrées. Mais ceux qui ont tiré aussi leur épingle du jeu, c'est le e-commerce parce que bah, c'était facile de livrer, etc. En fait, c'est les gens qui se sont ouverts à une offre de vin bio, de vin nature, qui essaient d'éduquer par des fiches techniques de plus en plus descriptives, qui essayent de parler, tu vois, par exemple, il y en a qui parlent de calendrier lunaire sur leur site internet, ce que je trouve très intéressant parce que quand tu arrives, que tu es consommateur lambda et que tu arrives sur ces énormes plateformes où tu ne sais pas du tout où aller, il y a des acteurs qui mettent par exemple, ah vous n'y connaissez rien en vin, allez voir dans notre cave des indispensables. Là tu cliques dessus, tu es super content parce qu'il y a un peu de tout de toutes les appellations. Et en fait ça tire vers le haut et ça fait connaître plus de vins, ça fait connaître plus de vignerons dans le monde large du vin. Par contre, forcément, il multiplie l'offre aussi. Et quelqu'un, demain, si tu achètes 12 bouteilles sur un retail en ligne, un anglicisme, sur un vendeur digital de vin, les 12 bouteilles que tu reçois chez toi, ce n'est pas les 12 bouteilles que tu vas aller dépenser chez ton caviste de quartier. Donc, en même temps, bah, nous, c'est sûr qu'en termes d'acteurs, de représentants en vin, bah, soit en fait, on vend ces vins au caviste, du coup, bah, y a un petit manque à gagner parce que toi, tu seras passé par le digital. Mais aussi, et c'est notre force, on travaille aussi avec le digital. Donc, pour moi, ça tire, pour répondre à ta question de manière un peu plus tranchée, ça tire quand même un peu plus vers le haut le débat. Et je trouve que les acteurs, un acteur digital, s'il est très bien fait, ça devient des références, comme peut l'être par exemple Ideal Wine, des grands sites qui se sont mis aussi à faire de l'avant. Bah, Twill, je trouve ça aussi très bien fait. Voilà, les grappes sont aussi plus bien faits. Et ça donne accès au vin à des gens qui n'ont pas forcément des budgets exceptionnels et qui peuvent acheter 3 bouteilles, 6 bouteilles. Ils se font livrer chez eux, c'est parfait en fait. Ça amène le vin chez toi quand tu ne peux pas aller l'acheter ailleurs. Donc c'est plutôt des bons acteurs.
Comment on fait quand on a un projet d'entreprise? Vous partez tous les deux avec Thomas, vous avez ce projet avec des convictions, déjà une ligne directrice.
Puis avec un timing parfait.
Ouais,
un timing parfait.
Impeccable.
Et vous vous lancez, vous prenez en pleine poire d'abord des grèves massives, comme on n'en avait pas connu en France depuis déjà quand même quelques années, même si on en a régulièrement tous les deux ans. Celle-là, elle était quand même costaud de fin 2019. Et puis
un petit dry January, tu vois.
Ah oui, ça c'était pas mal aussi.
January, qui revient tous les ans celui-là, mais c'est vrai qu'il prend chaque année un peu plus d'ampleur que la fois précédente.
Voilà.
Et enfin, la plus grosse crise sanitaire qu'on ait connue
de notre génération depuis,
ever, et puis probablement la plus grosse crise depuis la Seconde Guerre mondiale.
Ouais.
Comment on fait? Du coup, est-ce que c'est le numérique qui vient vous sauver, parce que pendant tout ce temps, vous n'avez pas pu rencontrer ni caviste ni restaurateur? J'imagine que ça a dû être très difficile.
Ouais.
Comment vous avez fait?
Alors, c'est très difficile, effectivement. Nous, on est en plus, c'est chaque agence a son ADN. Nous, on travaille vraiment 90% avec la restauration pure. Il y a des cavistes pendant le confinement qui ont, entre guillemets, bricolé. C'est-à-dire qu'ils ont quand même réussi un petit peu à vendre. Pourquoi? Alors, je parle des cavistes indépendants parce que les chaînes type Nicolas, Repère de Bacchus, qui ont pris des décisions de manière massive, ont ouvert beaucoup plus tard. Donc, ils ont laissé aussi la place pendant plusieurs semaines à des cavistes indépendants qui, eux, ont trouvé. Et je salue leur créativité, qui ont trouvé des trésors. Ils se sont mis à vendre des paniers maraîchers, des paniers apéro, ils se sont mis à faire plein de choses qui vont peut-être rester par la suite, je ne sais pas, tant mieux. Mais en gros, voilà, de but en blanc, si de toute façon les restaurants ne sont pas ouverts, on ne travaille pas. Donc c'était très difficile. Il y a eu quelques commandes qui nous ont aidé un peu à maintenir, mais clairement on est tous, et là je parle au nom de tous les confrères de la profession parce que pour en avoir parlé avec eux, on est tous sur les dents et on attend tous que tout le monde réouvre, mais comme les restaurateurs. Alors la différence, c'est que les restaurants qui avaient pignon sur rue et qui ont fait l'objet de fermeture vraiment au public, c'était vraiment très tangible, donc ils ont eu potentiellement des aides un petit peu plus affichées que nous qui étions un peu en amont de la chaîne. On est un peu dans un entre-deux. C'était parfois un peu plus difficile de s'en sortir. Après, il fallait se tourner effectivement vers les acteurs digitaux. Et là, c'est très bien quand tu as une offre qui est solide et que tu as des volumes à leur offrir. Nous, ce n'est pas notre cas. Nous, on travaille avec des petits producteurs qui font des petites quantités. Moi, j'ai des allocations à l'année où parfois on parle de 300, 600 bouteilles. Pour Paris. Nous, on représente Paris et la région parisienne, donc c'est très peu. Donc, on ne veut pas non plus se risquer à se couper des pros en disant « Ah, bah, j'avais ce vin-là, tu l'as trop aimé avant le confinement,
mais en fait,
j'en ai vendu 600 à tel acteur. » Là aussi, c'est difficile parce que nous, notre client, bah, il voulait acheter ces vins-là, sauf qu'il a dû fermer. Donc, on attend comme tout le monde et il n'y a pas de solution miracle. On attend que l'économie reprenne. Heureusement que la maire de Paris a aussi... a autorisé l'extension des terrasses, et là il y a beaucoup de terrasses sauvages entre guillemets, mais dans le bon sens du terme, qui prennent les places de parking, etc., mais très bien, et qui arrivent à limite doubler la surface.
On veut du vin, pas des voitures.
Exactement. Qui arrivent limite à doubler la surface extérieure sur leur extérieur que ce qu'ils avaient à l'intérieur, donc ils arrivent un petit peu à bosser. Par contre, un temps, évidemment, les gens peuvent se déconfiner, boum, il fait froid.
Ou il pleut à torrent, ouais.
Ouais, il pleut à torrent.
Drôle de timing.
Donc c'est difficile, mais ça repart, il y a un engouement quand même. Les choses, elles se font dans le temps. C'est des métiers excitants, c'est des métiers où les quotidiens sont jamais les mêmes, c'est des métiers où on rencontre énormément de clients, c'est des métiers vraiment avec des gros ascenseurs émotionnels, donc il faut pouvoir les gérer. Il y a des jours tu fais des ventes incroyables, tu vends des allocations, t'es trop content, et puis le lendemain pendant 2-3 jours tu vends rien, personne veut te recevoir, et puis tu vends des vins nature, et puis c'est 3 jours racines et ça goûte mal, et t'es déprimé, tu rentres chez toi, tu dis mais pourquoi mais c'est le quotidien. Et puis il y a des jours où c'est super, et puis on rencontre on a la chance d'aller, c'est le bon côté aussi du métier, quand on va faire entre guillemets des belles tables chez nos clients restaurateurs, c'est des moments de plaisir incroyables, on partage des très grands vins, c'est super. Mais c'est dur, c'est des métiers ingrats, c'est des métiers où il y a tellement d'offres, il y a beaucoup d'agences, il y a beaucoup de gens qui essaient de se faire une place. C'est des métiers difficiles, et tout le monde dit ah toi tu vends du vin, oh bah ça va la vie. Mais en fait, de l'extérieur. Mais c'est... Vas-y, fais ma journée en scooter, toute la journée sous la pluie, à trimballer des vins qui deviennent chauds, qui deviennent froids, qui goûtent plus, qui goûtent pas. Qui... c'est compliqué.
Ce grand 8 émotionnel, il correspond un peu à ton... J'avais encore un anglicisme en bouche, matchmaker. Mais vous êtes un peu les tournées manège entre les vignerons et les cavistes. Et pour moi, en tant que caviste, l'agent, c'est vraiment... Vous êtes un peu notre caviste à nous, en fait. C'est vous qui venez nous raconter une histoire. Et comme disait Florence, à très juste titre, souvent, quand ça matche au niveau de la personnalité, étonnamment, on est vraiment séduit. Et on se dit, c'est très étonnant. Est-ce qu'on a le même palais ? Et non, on a peut-être la même longueur d'onde ou la même façon d'approcher le produit et d'avoir envie de véhiculer l'information. Et finalement, ce message... Il influe sur ta dégustation
bien
du
sûr,
vin aussi.
Bien sûr. Mais il est
c'est
dans les
une
deux
vraie
sens.
Rencontre.
Il est dans les deux sens. Parce qu'un agent, alors c'est pas du tout forcément... tout le monde fait des erreurs, tout le monde est humain, tout le monde a ses jours avec ses jours sans. Mais un agent, et vous en aviez parlé dans une autre émission, le fameux agent qui arrive et qui veut te vendre son énième Carignan ou son énième
Saint-Saul.
C'est
Laurent qui se plaignait des agents un peu
sans
formatés.
Prendre rendez-vous sans... et en arrivant non, à 17h ou 18h.
Sans prendre en compte l'offre
déjà existante en fait, c'est-à-dire
il regrettait que
l'agent arrive avec voilà mon catalogue sans avoir pris la peine de se dire qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous recherchez et de terrible. Se dire, je me rappelle très bien de ce qu'il disait, c'est-à-dire de me présenter le énième Grenache, Syrah, Mourvèdre du Languedoc, alors que j'en ai déjà quatre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des nouveaux, enfin des vins différents.
Mais la vie est injuste parce qu'il y en a qui sont arrivés à la boutique en disant, j'étais pas loin. Et donc sur le coup tu te dis mec t'as pas pris rendez-vous, es-tu au courant que je suis premier ministre qu'il va falloir et finalement il te dit deux trois mots qui sont vraiment déclencheurs et tu sens quelque chose et il te fait goûter, alors peut-être que t'auras le temps de goûter que deux trois vins et pas tout ce qu'il a dans sa valise. Mais tout de suite, tu as de l'émotion et voilà. Ou alors, tu lui redonnes rendez-vous pour goûter un peu plus. Mais il y a des grosses rencontres comme ça.
Exactement. Et c'est tout l'art de l'agent d'arriver à dire « Attends, tu as 5 minutes, j'ai ce qu'il te faut en 5 minutes. »
Oui, exactement.
Et c'est très dur. Et en plus,
toi, tu fais ton boulot de terrain. Tu n'arrives pas en disant « J'étais pas loin. »
parce que j'ai été... Alors, c'était il y a un petit moment, mais j'ai été de l'autre côté du comptoir. Et quand tu as un fournisseur qui arrive, c'est beaucoup trop délicat de lui dire « Écoute, là, je suis désolée, mais là, j'ai un groupe qui arrive de 25 personnes, j'ai pas ma mise en place, j'ai rien. » Et en même temps, toi, le vin, c'est ton cœur, c'est ton métier. Donc, même derrière le comptoir, tu as envie de goûter. « Quoi, qu'est-ce que tu as ? Ouais, je connais pas.
Ça,
ouais, vas-y,
vrai, ouais.
Ouais, vas-y, montre. » Et tu commences. Et en fait, « J'ai pas le temps » se transforme en une heure.
Ouais,
Combien de fois j'ai eu du « J'ai pas le temps » qui se transforme en une heure ?
Ouais.
Mais trop cool.
Je me souviens de courses de relais avec mon collègue où on se l'inservait les clients pendant que l'autre goûtait et on revenait. Et parce qu'on avait compris qu'il allait se passer quelque chose. Et donc, voilà, on a réussi. Enfin, le temps est extensible, hein.
Oui.
Et la volonté est extensible aussi.
Et l'attirail de l'agent, moi j'étais à un moment où j'avais le crayon blanc, tu sais, qui écrit sur les verres quand t'as pas le temps et que tu laisses et que tu mets CS Cabernet Sauvignon, CF Cabernet Franc, hein, et tu dis voilà, tu goûtes ça quand tu peux. Enfin, c'est un métier excitant, mais effectivement, le propre de l'agent pour moi, c'est un, comprendre où il met les pieds. Poser des questions, être dans la découverte. Qu'est-ce que t'aimes, toi, en tant que caviste? C'est quoi qui te fait vibrer? C'est quoi les choses qui te donnent des émotions? Qu'est-ce que t'as envie d'offrir à tes clients? Et j'ai vraiment des discours de grands prescripteurs qui me disent « Ah, moi, si j'avais un Côte du Rhône comme ci, si j'avais un truc comme ça, c'est exact. » Et toi, en tant qu'agent, après, tu cherches et tu dis « Ok, il faut... » Et en même temps, il y a cette subtilité de « Je peux pas faire rentrer un domaine pour un client. » Parce qu'il me suffit que demain il ferme, voilà. Donc il faut, faut faire tout ce métier-là. Et puis d'un autre côté, il y a beaucoup de gens parfois qui me disent un blanc de Corse, j'ai pas de demande. Mais le j'ai pas de demande, il fait tellement mal parce que toi t'as qu'une envie, c'est de dire regarde comme c'est beau.
il est faux aussi, c'est une définition très finie
et un petit peu
dépassée. Tout comme tu parlais de parce que on n'a pas besoin de blanc corse. Moi, je ne vends pas de blanc corse.
Ah oui, par exemple.
Je vends ce que le sentiment que le client m'a décrit. Donc, s'il veut quelque chose de salin ou, comme disait Patrice, avec une fraîcheur maritime, je sais que je peux aller vers ces blancs-là.
Bien sûr.
Moi, ce qui me touche beaucoup et qui me parle dans ta description de ton métier, c'est je n'aime pas ce terme d'anti-vente, mais la néo-vente, c'est-à-dire presque oublier qu'on était là pour accrocher du chiffre d'affaires.
C'est mon gros problème.
Et tu sais, ça c'est le point commun entre l'agent et le caviste, c'est-à-dire que quand tu parles aux gens avec passion en leur disant pour une prochaine fois, il y a aussi ça, si vous avez aimé, ça va vous parler, tout ça. Les gens repartent avec deux voire trois bouteilles, pas parce que tu as voulu leur vendre, mais parce que tu n'as pas pu te retenir de leur en parler.
Ouais.
Et ils sont touchés comme toi tu as été touché par ton agent ou par ton vigneron.
C'est sûr. Après, c'est exactement ça. Et après, par contre, il y a plusieurs dimensions, je trouve, aujourd'hui, qui arrivent dans le métier d'agent. Et il y a cette grosse dimension technique. Et maintenant, tu rentres dans des bars à vin. Alors, il y a des ambiances très différentes. Il y a des grandes tendances aussi. Il y avait des grands ayatollahs du nature où parfois, tu vas dans des endroits où tu achètes, tu payes, on va dire, en achetant une bouteille ici pour un concept qui est très nature, qui est... Il y a des looks, mais comme dans plein d'autres secteurs, hein, mais il y a des looks et parfois, tu dépenses quand même des sommes qui sont conséquentes sur des vins où c'est pas fini, il y a beaucoup de défauts, mais les gens veulent ça. Et toi, dans ton catalogue, en tant que connaisseur de vin, amateur de vin, où tu as des émotions, des vins où il y a beaucoup de brettes, où il y a beaucoup de volatiles, où il y a beaucoup de... où tu sens que c'est passé de l'autre côté, tu vois, de la frontière, sans défaut et avec défaut, mais en fait, il y a un marché. Il y a un énorme marché.
Il y a énormément de demandes.
C'est sur incroyable. Les vins qui sentent mauvais.
Ouais. Et parce que les gens.
Moi, on m'a dit, mais ton nature, il n'est pas nature, il ne sent pas l'étable.
Ah oui, ouais, voilà. Et combien de fois.
À nous d'être pédagogues là-dessus.
Exactement. Hein. Et je me souviendrai toujours d'une anecdote chez un client caviste. J'arrive, je fais déguster des vins, et puis il y a un client qui arrive. Et le client dit bonjour, je voudrais un pet nat, je ne sais plus, un pet nat de quelque chose. Et donc, forcément, employant ce vocabulaire, le caviste se dit ah bah très bien, je suis tombé sur un gars, il sait ce qu'il veut, très bien.
Et non, en fait, il écoute les podcasts.
Peut-être. Et donc. Oui, qu'est-ce que vous aimez comme type de bulle, etc. Parce que là, j'ai un pet nat de mosaque. Ah, ben c'est ça, oui. Le client dit, je veux un pet nat de mosaque. Voilà,
un plat joli, vous voulez.
Bah, certainement. Et donc, très bien. Ah, ben oui, parce qu'il dit, ah, ben c'est très bien. Certainement, vous avez un. Pour dire ça, vous avez peut-être un vigneron de référence. Ah, non, on m'a juste dit que pet nat, j'allais pas avoir mal à la tête, c'était rafraîchissant et que c'était pas trop cher. Mais ce qui est
pas complètement absurde,
pas complètement non plus. Faux bien sûr, mais ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui il y a des clients finaux qui arrivent avec un vocabulaire de assez poussé et qui en fait n'ont pas forcément idée de ce qu'il y a derrière. Et en tant que nous on est là aussi pour transmettre ce message, et les cavistes et les restaurateurs sont aussi là pour transmettre ce message qui est toute une éducation. Et aujourd'hui les gens font des amalgames incroyables, le bio, le nature, la biodynamie, on comprend pas, on veut juste que ce soit propre. Sauf que quand un client se fait servir un vin nature et que ça sent notamment des arômes potentiellement très rustiques ou pas forcément agréables au nez, c'est pas du tout ce que j'ai demandé, ça pue votre truc, en parlant, pardon, un peu crûment, mais bon, c'est comme ça que ça se passe. Moi je voulais un vin bio, je voulais un vin sans pesticides. Bah oui, mais en fait là vous êtes en nature.
Il faut qu'on accepte notre responsabilité. Si le client a mal compris, c'est qu'on a mal expliqué. Parce que les seules personnes capables de faire cette jonction, c'est les profs de dégustation, les cavistes, ouais, les agents, etc. Alors les agents, évidemment, rien n'est de votre faute parce que vous nous expliquez techniquement les vins.
Ouais,
mais c'est le caviste, vraiment, il faut se séparer des chapelles, des égos, etc. et être vraiment dans le plaisir et dans l'écoute du client. Et s'il ne comprend pas les labels, etc., c'est vraiment qu'on n'a pas fait le job. Donc il faut qu'on continue de donner le maximum d'infos.
Mais le truc, c'est que tu peux être un peu désœuvré où la personne te le dit, oui, je veux du nature, je veux que ça sente la ferme, parce que je l'ai eu cette demande à la boutique.
Si c'est son goût,
oui, bien sûr, absolument. Donc c'est son goût, d'accord, tout est très bien. Mais là, t'es emmerdé parce que moi, j'ai pas ça, parce que c'est pas mon goût, c'est pas le goût de mon patron qui achète.
Au cas où.
Et j'ai pas. Et je lui dis, je peux vous faire goûter un nature et tout, mais ça va avoir le goût de vin, ça va pas avoir le goût d'étable.
Et oui, toi, t'es sommelier.
Et là, j'ai eu le coup avec une cliente, je repense très bien à cette cliente, qui me dit, oui, il est pas mauvais, mais il est pas nature, quoi. Si, je te promets, il est nature. Mais,
et là, toi, t'es dans la bonne position pour lui réexpliquer.
Oui.
Que nature ne veut pas dire
mais,
déviant.
Mais elle est restée accrochée à son goût.
Ouais,
il y a
some you win, some you lose. Ouais, il y en a qu'on.
C'est Pascaline Le Pelletier qui avait fait un article comme ça dans la RVF où elle parlait du goût de souris et cette clientèle américaine qui le demande.
Ouais.
Complètement, parce que pour eux, c'est exactement la typologie des arômes. Ils viennent chercher ces extrêmes parce que pour eux, ça correspond à une philosophie, à une image, et c'est ça qu'ils achètent. Et moi, je vois vraiment. Moi, je suis déjà rentrée dans des restaurants où je mange le midi pour aider mes restaurateurs, et j'entends dans les tables à côté, les mecs regardent même pas la carte des vins, ils disent qu'est-ce que vous avez en vin bio tout de suite. Et c'est Et bon, il y a les tendances de consommation, elles évoluent de toute
façon. L'un n'empêche pas l'autre. On peut avoir du Mozart et du son garage,
du
grunge.
Complètement.
Ça correspond à des styles.
Complètement.
Après, que toi, tu as une ligne esthétique par rapport à ta carte, ça fait sens.
Bien sûr.
Après, encore une fois, voilà.
Il y en a pour tous les goûts. Complètement d'accord.
Il faut offrir, voilà. Et par contre, profiter de ce que sont un petit peu garage pour dire bon bah là s'ils avaient un petit peu réglé les amplis et un petit peu fait les trucs, tu aurais eu un truc un peu plus harmonieux que du pur son garage, quoi.
J'ai une question un peu grossière, désolé, mais j'ai envie de parler un peu d'économie.
Yes.
C'est les pages saumon de la terre à boire, mais un agent il touche combien sur une bouteille?
Très bonne question.
Quelle place il prend dans cette économie du vin ?
Tout à fait. Alors, il y a plusieurs façons de travailler quand on est agent, parce que c'est vrai que c'est un monde de fonction, c'est peut-être des modes de fonctionnement un peu opaques, on ne comprend pas trop.
Expliquons.
Et voilà. Et donc, il y a plusieurs modèles. Il y a le modèle d'agent, on va dire, pur, qui est lui vraiment représentant en vin, qui a des
échanges. D'agent double, c'est
ça. Il y a aussi agent double, et voilà, tout à fait. Oui, on peut être les deux. Et en fait, l'agent qui est ce que j'appelle moi, alors c'est vraiment mon vocable et c'est vraiment moi qui m'exprime comme ça. L'agent pur, entre guillemets, lui, il est représentant en vin, il a son portefeuille de vignerons, il a ses échantillons, et lui, les commandes en fait vont partir directement du domaine. Là-dessus, il touche une commission qu'ils négocient avec le vigneron. Donc ça, c'est vraiment leur popote. Ils font un peu comme ça aussi. Je vais donner une fourchette très large parce que vraiment, je ne vais pas du tout m'avancer sur des négociations.
Entre 1 et 100%.
Non, mais aux alentours. Bon, voilà, c'est déjà, tu vois, une quinzaine de pourcents, c'est un peu la moyenne, en gros, voilà, pour dire les choses. Et puis, il y a des modèles grossistes où là, c'est vraiment des agences qui achètent leur stock, qui le stocke. Donc là, on rajoute des coûts logistiques et des coûts de maintenance qui sont bien plus lourds et qui les revendent derrière. Donc là, il y a une mobilisation de trésorerie qui est bien plus importante. Il faut supporter les stocks. Il faut en avoir aussi assez en stock pour répondre à la demande. Donc, bon. Donc, c'est un modèle, c'est deux modèles très différents, mais qui, en l'occurrence, à la fin, quand tu as rogné, même si tu peux être en tant que propriétaire des vins parce que tu as acheté le stock, tu définis tes marges et tu fais un peu comme tu veux. Au final, les coûts que tu répercutes structurels sur la logistique, etc., te ramènent un petit peu à une quinzaine. C'est un peu équivalent. C'est juste que la méthode de fonctionnement est très différente.
C'est un ordre d'idée voilà. Autour de 15%.
C'est à peu près ça, grosso modo. Après, et pour moi, c'est deux choses qui sont très différentes. L'agent pur qui va faire partir les bouteilles du domaine, c'est pas lui qui facture, c'est le domaine qui facture directement le restaurateur. Donc après, c'est aussi le restaurateur, le vigneron pardon, qui s'occupe aussi de relancer un peu les clients. Alors bien sûr, l'agent qui est sur le terrain le fait bien entendu parce que ça fait aussi partie de son éventail de choses à faire en tant que de s'occuper du recouvrement qui est souvent assez délicat aussi. Voilà, c'est jamais simple.
Faire payer ses factures.
Ouais. voilà, et puis bah, le grossiste il doit aussi faire pareil parce que lui il a tellement de trésorerie de mobiliser que de toute façon il faut qu'il puisse recouvrer rapidement ses créances. Bon, c'est comme partout, vous allez me dire, mais il est connu que le crédit fournisseur sur le vin est relativement élevé parce qu'un restaurant, bah, faire du crédit fournisseur sur le food, clairement, le maraîcher, si demain il te livre pas tes tomates, tu fais pas la cuisine. Donc c'est un peu plus difficile, même si tu peux passer par plusieurs acteurs. Le vin,
c'est le levier de trésorerie.
Bah, le vin, tu peux passer par plein de fournisseurs différents. Donc tu peux jouer sur.
Tu peux le stocker, il n'y a pas de.
Voilà.
Donc, bah, c'est vrai que on dit toujours que pour puisque tu es dans les chiffres, un restaurant ça va faire un coefficient de 4 sur tout ce qui va être le solide et un restaurant ça va faire un coefficient de 5 sur ce qui va être le liquide 20. Hein, parce que les soft
fois,
les
fois 4 fois 5.
Voilà, les sans alcool, l'eau, le soda, tout ça, c'est encore autre chose. Mais c'est la moyenne. Alors que un caviste, lui, il va faire un coefficient entre 1,8 et 2,2 en général. C'est à peu près ça, s'il est raisonnable, s'il est à peu près
ça,
normal.
Exactement.
Voilà. Après, il y en a qui font plus. Faire moins, ça me semble compliqué, mais il y en a qui font plus.
Un restaurant va vendre la bouteille 5 fois le prix qu'il l'a acheté.
Ouais.
Un caviste va revendre la bouteille environ 2 fois le prix qu'il a acheté.
Voilà.
Entre 1,8 et 2,2, on va dire.
Ouais.
On
dit, nuance,
en gros, fois 2.
Tout petit peu ces chiffres.
C'est un peu moins les restos, non c'est
ou alors c'est 3, ça dépend 4. À combien ils achètent la bouteille. Les bouteilles plus haut de gamme, en fait, oui. Peu près, au-dessus de 30, 40
ouais,
alors
euros
hors taxe.
On nuance, c'est vrai, parce que moi, si je donne
plus
mon exemple,
élevé, moins le copie,
si la bouteille, je l'achète entre 0 et 50, on va parler d'un coefficient. Si je l'achète plus de 50 euros, on va parler d'une marge, parce que tu ne peux pas faire une bouteille que tu as achetée 500 euros, tu ne peux pas faire un coefficient 5 parce que c'est invendable. Dans ces cas-là, tu fais une marge. Voilà.
Puisqu'on est en train de parler de vieux millésimes, terminons avec un vin que tu nous as apporté, Florence.
J'ai ramené quelque chose que je n'ai pas goûté depuis 3 ans. Le vin, c'est 3 choses qui s'unissent. C'est la terre, c'est le ciel et c'est l'aube. Et ça fait un vin. Et j'ai ramené ce vin parce que dans ce vin, pour moi, il y a vraiment une histoire au niveau de l'homme. Et j'ai un souvenir avec ce vin, c'est qu'il faisait moche, il pleuvait, on devait aller dans les vignes, il pleuvait des cordes, donc c'était pas possible. Donc on a été dans le chai et on a goûté les vins dans le chai. Et les vins m'ont paru d'une finesse et d'une délicatesse assez atypique. Et quand après, plus tard, j'ai reparlé de ce vin, on m'a dit « Bah ouais, mais c'est un vin féminin ». Bon, alors voilà, ça y est, ça m'a énervée.
Le mot est lâché.
Le mot est lâché. On me dit toujours, c'est un vin féminin parce que ce vin, c'est le domaine Chantal Lescure. Donc alors forcément, c'est Chantal Lescure, c'est féminin. Chantal Lescure, ça date de 75. Elle était avec son mari Xavier Machard quand ils ont pris le domaine. Maintenant, à leur tête, c'est les deux fils. Mmh. Et en fait, c'est pas vraiment eux qui font le vin. Le vin, c'est François Chavera. Donc lui, il est arrivé en 96 et on en a parlé tout à l'heure. La particularité de cet homme, c'est que il est autant chef de cave qu'il est chef de culture. Et quand il est arrivé au domaine, je vais un peu caricaturer, il a dit on change tout. Et donc de pratique un peu tradie, il est revenu à la terre, il est revenu à l'essentiel, et donc il travaille ce qu'on pourrait dire en agriculture biologique, voire même biodynamique. Je ne crois pas que tu aies de petits sigles. Il n'y a pas de label. Je suis sûre et sûre que c'est du bio, qu'il n'y a pas un pet de produits chimiques dedans. Mais le label, je crois qu'ils ont certifié plus tard. Ils ont certifié en 2009, parce que là, c'est en 2007. Donc je crois que le label, on doit l'avoir en 2009. Il y a 19 hectares, donc c'est pas bien grand. Il y en a 15,5 en rouge, donc presque rien en blanc.
19 hectares à Pommard, c'est pas mal quand même déjà.
Alors, c'est en Bourgogne.
Oui, c'est pas sur la
Pelle. C'est Côte de Nuit, Nuit Saint-Georges, mais il n'y a pas tout à Pommard. J'ai un souvenir d'un blanc extraordinaire, c'est que il a dit oui, oh, le blanc, nous on en fait, mais on n'en vend pas beaucoup, on en fait pour nous. Donc ils m'ont reçu dans leur cuisine, là où les gens des cultures et les gens des chais mangent tous ensemble. Et il a ouvert un magnum de Nuit Saint-Georges qui était extraordinaire et phénoménal. Et il a dit « Ah, mais ça, on le vend pas. » Il dit « Ça, c'est pour nous. C'est pour ça qu'on fait un magnum, parce qu'en bouteille, c'est trop petit. »
Un Nuit Saint-Georges blanc.
Un Nuit Saint-Georges blanc.
Il faut dire aux gens que ça existe,
c'est super rare. Et donc, le gars, il te dit qu'en plus, il ne le vend pas. Tu bois un vin extraordinaire. Tu dis « J'en veux et tout. Je vais en mettre à ma carte. C'est super. » Il te fait « Ah, mais non. On n'en fait pas. » Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une finesse dans ces vins parce qu'il y a de l'élevage en fût, mais très peu de fût neuf. Et alors ça goûte peut-être pas aussi bien que ce que ça goûtait il y a quelques années, c'est peut-être un peu mon défaut, moi j'ai peut-être un peu tendance à oublier mes vins dans ma cave, mais ça goûte encore plutôt pas trop mal, surtout que c'est un millésime 2007,
c'est très joli quand
et
même.
que 2007 c'était une année vraiment pas facile. C'est un Pommard, c'est le premier cru Lébertin et c'est un millésime 2007 de chez Chantal Lescure.
Le domaine Chantal Lescure à Nuit Saint-Georges. Qu'est-ce que vous diriez sur ce Pommard pour terminer ? Parce qu'on a déjà passé beaucoup de temps.
Cette note... Vas-y. Cette note grillée dont tu parlais, enfin en tout cas le fait que certains raisins aient un peu grillé sur un millésime un peu difficile et très solaire, qui passe en tertiaire avec les fûts même usagés, et ben moi j'ai eu du chocolat en attaque, ce qui est très rare. En général, je peux l'avoir, mais plus sur un grenache et plus en fin de bouche. Et là, j'ai eu tout de suite du chocolat. Et puis, sur ton interrogation, sur ta patience, peut-être un petit peu trop risquée, bah, écoute, moi, je trouve que ça a la pêche, quoi. Ouais. C'est encore un bien punchy, hein.
Est-ce que c'est un vin vif, Hélène ?
Après, on est sur la Bourgogne, donc on est aussi sur des terroirs et sur des trames, des acidités, enfin des trames minérales que je trouve toujours très élégantes. Moi, je trouve assez fin. Effectivement, c'est un millésime compliqué. Donc, c'est là où tu vois aussi la patte du vigneron derrière, d'arriver à sortir d'un millésime compliqué des vins qui sont... Moi, je trouve assez effilé. Il est quand même assez long, mais oui, tu sens qu'à la fin il y a ce côté légèrement, voilà, un peu confituré. Il y a des notes déjà
fruits cuits,
ouais, fruits cuits, la cerise cuite, voilà, un petit peu charnue,
un peu kirché,
voilà, qui part sur de l'eau de vie. Après, bien sûr, on est complètement dans un, je trouve, dans une expression du Pinot Noir qui est élégante et qui se tient. Après, je l'aurais pas forcément mis à Pommard.
Ouais, j'allais dire, est-ce qu'on est dans l'identité de Pommard avec celui-là ?
C'est la note de cuir.
Un petit peu. Moi, je le trouve assez animal. Je le trouve très animal. Et que Pommard, j'ai plus... Enfin, j'ai plus l'habitude... j'ai pas goûté tous les Pommards du monde, mais j'ai...
Le cuir est plus du côté de Vaune.
Voilà. J'ai d'habitude, sur les Pommards, j'ai peut-être un côté un petit peu plus... un petit peu plus fin,
plus végétal qu'animal,
ouais, un fruit floral, un petit peu voilà, un petit peu différent, moins animal en tout cas. Après, encore une fois, question de goût.
Non, mais c'est que mais c'est ce que je disais, il a commencé son millésime sous l'eau et il a fini sous le soleil qui est un peu grillé. Donc voilà, et puis c'est pas si grave d'avoir attendu.
Bah, c'est plutôt très bien d'avoir attendu.
Nous, on est ravis.
C'est quand même très bien d'attendre un petit
mais
peu.
Bravo d'avoir des 2007, parce que je sais que souvent quand tu amènes des vins, minuscule aparté là-dessus, parfois tu fais l'effort aussi d'amener des millésimes qui sont un peu plus vieux, parce que peut-être voilà, tu en as encore en cave. Et par exemple, en tant
parce qu'elle a les moyens, surtout.
Par exemple, tu vois, aujourd'hui...
Parce qu'elle a bon goût et beaucoup de modération.
Bah, ça, c'est évident, mais c'est une force.
C'est la modération, oui.
C'est une force parce que des caves à Paris, où il y a des caves dans le sens, pas caviste, mais vraiment des caves constituées, où il y a des vieux millésimes sur des verticales, c'est vraiment difficile à trouver. Aujourd'hui, que tu sois agent, que tu sois restaurateur, que tu veuilles passer en direct, c'est très difficile d'acheter des vieux millésimes parce que tout est mis en marché très vite. Les vitis ont aussi besoin de trésorerie. Et alors là, bah, voilà, en tant qu'agent, si tu veux proposer des vieux millésimes à tes clients, c'est toi qui les gardes et c'est toi qui les achètes. Mmh. Et c'est aussi quelque chose qui s'ancre dans le monde de l'agence, qui devient un intermédiaire assez puissant parce que c'est à celui qui arrivera à placer des allocations. Ah, tu veux des vieux millésimes ? Ok, j'ai 12 bouteilles, que pour toi, mais c'est tout. Et voilà, c'est...
Ouais, il y a un petit peu des fois, parce que nous, donc, on achète et on garde, mais il y a des établissements où on leur dit bah, faut que tu achètes 60 du nouveau millésime et si tu es sage, tu auras le droit à 6 bouteilles d'un vieux millésime.
Chantage alcoolique.
Hélène Savoie, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de beau et de bien à l'agence Vif, si jeune et qui a déjà connu des épreuves si gigantesques?
Trois guerres mondiales, quatre grèves, cinq campagnes.
Moi, j'attends l'astéroïde.
Vous êtes des survivants.
Comment vois-tu l'année 2020 et puis les suivantes?
Moi, je dis que c'est une année blanche et noire, parce que c'est une année noire, forcément, on comprend pourquoi. Et c'est une année blanche parce qu'on n'arrive pas non plus à dégager des tendances. Forcément, alors économiquement parlant, forcément, nous, on se prend, je pense, sans voir large, entre 6, 8 mois, voire 10, entre guillemets, dans la tronche, parce qu'on va devoir vraiment étaler beaucoup plus nos prévisions, c'est évident. Moi, je souhaite, et au-delà de l'agence Vive, je souhaite vraiment à toute la profession, de toute façon, de repartir. Il y a des hôtels qui font des choses incroyables sur les sens de circulation, les normes sanitaires. De toute façon, le paysage va muter. Il y a des choses, je vois des restaurateurs qui mettent maintenant leurs cartes en QR code sur leur table. C'est pas du tout une mauvaise idée. Tout le monde aujourd'hui dégaine son téléphone 50 000 fois par jour. Voilà, si c'est plus facile
pour
lire.
Parce que dans le protocole sanitaire, il y a le fait qu'une carte qui passe main en main, il faudrait qu'on la désinfecte à chaque fois. Donc
je pense, tu vois, ça par exemple, pour moi, c'est une évolution qui est plutôt entre guillemets positive, parce que toi, tu peux choisir en amont, tu peux regarder la carte avant de venir. Il y a des choses qui vont muter. Il y a des restaurants qui se sont qui se sont un peu transformés en cavistes, mais du coup, comme les coefs sont pas du tout les mêmes, en fait, ils vendaient des prix un peu. Voilà, tout le monde a fait un peu tout ce qu'il pouvait parce que tout le monde était dans le même bateau, essayait de s'en sortir pendant ce confinement qui tend à vraiment se terminer, et tant mieux. Donc autant à nous deux avec Thomas qu'avec tous les autres confrères, agents et restaurateurs au sens large, c'est de repartir peut-être voilà, avec des nouvelles idées. Mais je crois sincèrement que les gens, les consommateurs finaux, ont envie de porter les produits français. Pas que, hein, y a aussi l'échange culturel.
Y a aussi les produits corses.
Entre autres.
Je ne peux pas s'en empêcher.
Voilà, et donc je souhaite simplement que les gens retournent au restaurant, retournent chez leur caviste, continuent d'acheter, parce que pendant le confinement, il y a beaucoup de cavistes qui se sont entre guillemets un peu sortis, mais les gens achetaient quand même moins cher. Le panier moyen était quand même descendu parce que ils achetaient un peu leur vin tous les jours au fur et à mesure, et qu'en fait ils ont la consommation a quand même pas mal augmenté pendant le confinement, mine de rien. Mais les gens donc achetaient peut-être un peu plus, mais en tout cas moins cher. Donc là, je souhaite vraiment à tout le monde de continuer à soutenir les restaurants, à aller manger les produits, enfin déguster, savourer, acheter les produits du terroir de nos artisans, de nos vignerons, et de faire vivre les commerces de proximité qui, on l'a vu, ont aussi un grand avenir, et que oui, on allait tous dans les chaînes de supermarchés parce qu'il fallait qu'on aille à un endroit, mais que si on pouvait continuer à aller partout, ce serait... Voilà.
Moi, je prolonge ton appel avec une pensée qui est plus générale. Je pense que on a tous effectivement besoin de retourner au restaurant. Je pense qu'il faut vraiment qu'on, pendant cette période où on ne consommait pas, mais c'était bien de vider sa cave. Et puis là, il faut aller consommer. Ce n'est pas un appel à la consommation pour la consommation, mais c'est plutôt pour aider des entrepreneurs à ne pas mettre la clé sous la porte, parce qu'il y en a quand même, je crois avoir lu qu'il y avait 30% des restaurateurs indépendants qui étaient menacés. J'ai rien contre les chaînes, réellement, mais j'ai... Moi, à titre personnel, je ne vais pas faire un appel général, je ressens le besoin de ne pas aller dans des chaînes, là, dans les mois et peut-être les années qui viennent, pour soutenir les indépendants qui sont les plus fragiles. Les chaînes, elles ont, a priori, une surface financière, une capacité d'investissement, une capacité de se projeter sur l'avenir, de faire le dos rond. Beaucoup d'indépendants n'ont absolument pas cette possibilité de faire le dos rond et d'attendre que la clientèle revienne. Donc, je dirais qu'au choix... Voilà, allons chez des cavistes indépendants, allons chez des restaurants indépendants plutôt que dans des chaînes formatées. Il faut aider et peut-être limiter la casse, que ces 30% ne soient que 10% ou 15% si possible.
Il ne tient qu'à nous.
Ouais, et que les petits vignerons qui n'ont pas beaucoup de volume, ils sont très rarement dans les chaînes parce que de toute façon, ils ne peuvent pas.
Oui, c'est un ensemble, c'est un écosystème.
Donc c'est la filière, voilà. Oui. Et aller en œnotourisme, hein, la SNCF a plafonné plein de billets de train, pas trop cher pour aller partout en France. Bon, allons dans nos régions, les vignerons, ils vous accueillent, ils vous font déguster directement les vins dans la cave, ce qui est encore plus sympa.
Comme on dit en français, small is beautiful.
Voilà.
Décidément, ça a été un épisode extrêmement anglophile.
Faudra qu'on fasse un truc sur l'onotourisme.
Oui, avec plaisir.
Et les labels, vous avez dit avant.
Il y a un auditeur qui nous
et
l'a d'ailleurs...
Et le terroir, on a tellement de choses à se dire.
...glissé dans les différents réseaux sociaux que je vous invite à suivre, la Terre à Boire, même si on ne publie pas énormément de choses, mais bon, on préfère faire des émissions, en fait, et puis les poster quand on est tous ensemble. Mais suivez-nous quand même, ça nous fait plaisir, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, etc., etc., sur le site laterreaboire.com. Merci Hélène Savoie, bon courage pour la suite.
Merci à vous d'avoir donné la parole aux agents de cette
à travers toi, voilà. Merci on en recevra sur mon dos.
J'espère, ouais, bien sûr.
Pour faire un petit peu le tour de cette économie du vin et la découvrir ensemble. Merci Florence, merci Marie, merci Patrice.
Merci.
À très bientôt à tous, ciao.